Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans, et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Ça m'a permis de développer ma patience parce que j'étais assez impatiente et je pense qu'en plus cela... société un peu dans laquelle on vit en France, quand on voit par exemple, rien que si on reprend l'exemple des réseaux sociaux, mais sur YouTube, etc., on est beaucoup dans une société de zapping où tout va très vite tout le temps. Et je me suis rendu compte de ça, ouais, que j'avais perdu en fait des fois la patience d'écouter une conversation, de lire un article, des choses comme ça. Prendre le temps de vivre aussi l'instant présent, pas être dans le futur ou le passé.
Depuis 3 ans, Anatole et Marion traversent l'Afrique en van. Après un début de carrière bien rangé à Paris, ils ont soif d'autre chose. Marion, comme beaucoup d'entre nous, s'est longtemps sentie stressée à l'idée de devoir trouver une sécurité matérielle rapidement après ses études. Elle l'a trouvée, y a goûté, pour finalement vouloir s'en détacher. Il lui manquait de la saveur, tu sais, ce petit truc en plus qui fait toute la différence et qui te rappelle comme la vie peut être immense lorsqu'on se détache des routes tracées. Alors avec Anatole, comme ça, sur un semblant de coup de tête, ils décident de prendre la route. Et ça change tout. Tout de leur façon d'appréhender et de vivre leur vie, tout de leur rapport au temps et à ce qui compose un doux bonheur, tout de ce à quoi ils aspirent, de leurs envies, leurs rêves, leurs relations. Cette route vécue comme une métamorphose, Marion nous la raconte aujourd'hui. Et c'est une sacrée bouffée d'air frais pour relativiser sur nos quotidiens souvent dictés par des gestes automatiques. Pour Marion, une chose compte vraiment. Être maître de son temps. Parce que dans une société qui nous pousse à toujours courir après le temps, la vraie richesse est celle du temps long, de celui qui ne nous file plus entre les doigts et que l'on savoure pour de vrai. Salut Marion, je suis avec Marion et Anatole, mais on va surtout parler de toi Marion. Anatole, si jamais tu veux ajouter des petits trucs parce que Marion dit des bêtises, t'hésites pas. Du coup, on est à La Rochelle et je suis trop heureuse de t'avoir Marion. Ça fait un petit moment que je suis ce que vous faites, les Mariole Trotteurs. Et vous aussi, en fait, on se suivait mutuellement, mais on ne s'est jamais parlé. Et il y a quelques semaines, tu m'as envoyé un message. Et donc, tu es là aujourd'hui, tu vas pouvoir nous parler de ton parcours, de qui tu es, de tes valeurs et de pourquoi vous en êtes venus tous les deux à faire ce projet-là.
Tout à fait.
Donc, écoute, est-ce que tu peux commencer, comme pour tous mes invités, à me parler de toi quand tu avais 7 ans, me dire quelle petite fille tu étais, quels étaient tes centres d'intérêt, tes passions?
Alors, quand j'avais 7 ans, je crois que j'étais plutôt une enfant un peu classique. J'ai toujours été, classique dans le sens banal, je crois.
C'est quoi banal?
Je sais pas, j'avais pas forcément de passion qui sortait du lot. J'ai jamais eu la chance de voyager avec mes parents, par exemple. Donc ça vient pas de là, le voyage. Parce que tout simplement, je pense qu'ils en rêvaient, mais ils avaient pas forcément les moyens financiers. Et donc j'étais jamais sortie de France, mais j'avais quand même la chance de partir en vacances en France l'été, en camping souvent. Et donc ouais, quand j'étais en école primaire, j'étais plutôt une bonne élève, voilà.
Et comment tu imaginais la vie des grands? T'avais des rêves pour ton futur?
J'ai pas mal grandi, je crois, pendant l'enfance. Alors, je sais pas, à 7 ans, parce qu'à 7 ans, c'était vraiment... À 7 ans, j'avais pas forcément de grands rêves. Je crois que je voulais être peut-être prof des écoles. Je me souviens que je voulais être prof des écoles, ouais, au collège et tout ça. Et après, j'ai pas mal grandi dans la peur, en fait, du chômage, de pas trouver d'emploi, etc. Parce que c'est vrai que j'ai connu ça un petit peu dans le cercle familial. Et je me souviens avoir fait toutes mes études. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai fait des études et que je voulais avoir des... que je suivais à l'école, c'est parce que j'avais vraiment très peur, mais ça jusqu'en master 2, de pas trouver d'emploi en fait. et d'être en situation de précarité, enfin d'être pauvre en fait tout simplement. Et ça m'a pas mal terrorisée, je crois. Et il a fallu un petit travail pour s'en détacher et oser tout quitter.
Et voilà. Du coup, quelles sont les études que tu as faites et comment tu te sentais pendant ces périodes, ces années d'études ?
Alors moi, j'ai fait un bac S, pas parce que j'aimais les maths, mais parce que j'avais des bonnes notes en maths et on m'a dit il faut faire un bac S, donc j'ai fait ça. Je me suis jamais trop... j'ai suivi le parcours un peu classique. Enfin, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bac S quand même. Après, j'ai fait une... Vu que ça me plaisait pas trop, du coup, les sciences, je suis partie en fac d'économie parce que je voulais comprendre le monde dans lequel on vivait. En fait, je trouvais que le bac S m'avait rien appris, à part... j'avais eu le bac parce que j'étais bonne élève, mais que... Enfin, je m'accrochais, mais ça m'avait pas intéressée. Et je voulais vraiment comprendre le monde dans lequel on vivait. Ça, je me souviens de ça très bien. Et donc, j'étais allée en fac d'économie et de sciences humaines. Bon, à la fac, parce que j'étais sérieuse, du coup, j'ai réussi. Mais pas forcément par passion. Et puis après, en licence 2... j'ai voulu m'intéresser aux ressources humaines et c'était pas forcément des options présentes dans ma fac et donc il y avait pas forcément de propositions en France. Enfin, fallait que je bouge. Enfin, ça m'allait pas trop. Fallait aller à Paris, je crois, on m'avait dit. Et je voulais pas aller à Paris, pas du tout. J'avais pas les moyens, je crois, d'aller à Paris. Ça me faisait trop peur.
C'était une question de moyens ou juste la ville qui te faisait peur ?
Non, de moyens. Parce que j'étais allée à la fac parce que j'avais pas envie de prendre un crédit et mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer une école plus chère. Donc c'était un peu la suite logique d'aller à la fac pour moi. Et du coup, je suis partie à Montréal. Donc j'ai fait un échange, en fait, ma licence 3 à Montréal, où j'ai pris option ressources humaines. Et après, je suis rentrée en France pour faire un master. Au début, c'était plus ressources humaines, le master 1. Enfin, il y avait option ressources humaines. Et puis, en m'inscrivant, ils ont proposé l'option gestion d'entreprise sanitaire et sociale. Et là, j'ai eu un déclic. En fait, j'y avais pas pensé, tout simplement. Et là, j'ai su que c'était pour moi. Et donc, j'ai fait ça en master 2, en spécialisation gestion d'entreprise sanitaire et sociale. En gros, gestion d'association pour moi. Et ça, c'était vraiment un coup de cœur pour le coup. J'ai vraiment adoré. Et j'ai eu la chance de travailler après dans ce milieu-là. Et
donc là, plus la peur d'être au chômage, tu te sentais bien
assurée. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai eu la chance. Après, on a bougé à Paris avec Anatole parce que lui a eu une proposition à Paris pour une start-up. Et donc, je me suis dit, allez, pour commencer une carrière, pour avoir un job, un premier job, Paris, c'est pas ce qu'il y a de pire. Et donc, on a bougé sur Paris. Et j'ai trouvé assez rapidement un poste de chargée de développement dans une petite association dans le logement des jeunes actifs et migrants. Je suis très vite passée responsable développement parce qu'on a développé très très fortement l'association à cette époque-là. Et donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de reconnaissance aussi au travail.
Et du coup, vous étiez tous les deux à Paris avec des jobs que vous aimiez. Et qui vous offrait quand même une certaine stabilité et un quotidien confortable. Et vous avez décidé de partir en Afrique.
C'est ça.
Pourquoi avoir décidé comme ça de quitter cette stabilité que justement tu cherchais à atteindre parce que ça te faisait peur de ne pas l'avoir ? Et quand tu l'as eue, tu as décidé de partir. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est exactement ça. Exactement, parce que du coup, pendant toutes mes études, surtout moi, je crois, enfin Anatole aussi un petit peu, mais j'avais cette peur, je me disais, il me faut absolument un emploi. De l'argent suffisamment. J'ai jamais choisi un métier pour le salaire, parce que j'ai choisi de travailler dans le milieu associatif, donc c'est clairement pas ce qui paye le mieux. Mais je voulais quand même une certaine stabilité. Et en fait, on l'a atteint assez rapidement, parce qu'on a on est tous les deux rentrés en CDD dans des petites assos, start-up, et on nous a très vite proposé des CDI. Et donc, on s'est retrouvés, je pense, en un an, avec tous les deux un CDI, un appart plutôt cool à Paris et tout. Et on s'est dit, maintenant qu'on a tout ce qu'on voulait, ce qu'on attendait en fait depuis 5-10 ans, on n'est pas plus heureux. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre argent ? Vu qu'on vivait avec très très peu de moyens en tant qu'étudiant, dès que tu as un salaire, on n'avait pas forcément des salaires très élevés, mais dès que tu as un salaire, on était là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On n'avait pas du tout pour projet de se marier, de faire fonder une famille ou d'investir dans l'immobilier. On a commencé à voyager, puis en fait, on s'est rendu compte que nos voyages qui nous coûtaient peut-être le double de quand on était étudiant, c'était pas forcément mieux. En fait, on aimait bien aussi quand on dormait chez l'habitant en sac à dos. On s'est dit, ça nous rend pas plus heureux. Aller dans un restaurant un peu plus haut de gamme, ça nous rend pas heureux non plus. Et c'est là que on s'est dit, il nous faut un autre objectif, quoi. Et on est tombé, je crois, sur un reportage d'une famille. Je crois que le premier reportage, c'était plutôt une famille en voilier qui voyageait autour du monde. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas pour nous. Et puis bah, après, on a commencé à préparer le voyage.
Et combien de temps après, alors le cheminement s'est passé sur combien de mois?
Le cheminement s'est passé sur, je dirais, entre l'idée et le départ, 2 petites années. Ouais.
Et est-ce que vous avez eu des peurs, justement, de quitter cette stabilité vis-à-vis de vos proches, de vos parents?
Anatole avait beaucoup moins peur. Lui, il était prêt tout de suite, je crois. Bah moi, j'avais beaucoup... Ouais, j'avais très, très peur. En fait, j'avais très peur de revenir et que je ne sois plus employable, entre guillemets. Je me disais, mais on va partir et puis on va me prendre pour quelqu'un qui ne veut pas travailler. Je ne retrouverai pas d'emploi en rentrant. Enfin, et puis Anatole m'a pas mal rassurée en me disant, mais attends, ça se passe super bien ton boulot. Ils sont super contents de toi. Il n'y a aucune raison qu'en revenant, tu ne retrouves pas un emploi, tu as plein de qualités, etc. Enfin, il m'a pas mal rassurée et ça m'a pris, moi, je pense, je m'en souviens, un an. Même si on a quand même préparé, mais ça m'a quand même pris un an mentalement de me dire « Ok, je vaux quelque chose et j'ai de la valeur et je retrouverai quelque chose en rentrant, enfin on rebondira et tout ça ». Et puis il y avait aussi, on voulait quand même avoir des économies suffisantes pour en rentrant aussi avoir, peut-être, je sais pas, on n'avait pas grand-chose, mais peut-être au moins 5 000 euros pour rentrer ou 2-3 000, enfin quelque chose comme ça quoi.
Et est-ce qu'en partant, vous aviez déjà ce projet de créer votre propre chaîne YouTube, les Mariole Trotter, ou est-ce que vous vouliez juste partir en voyage en Afrique avec votre van et faire des petites missions, des petites actions sur place?
En fait, Anatole...
C'est les croquettes du chat.
On peut continuer ou on attend?
Oui.
Ça marche bien, le micro.
Ça marche bien.
En fait, Anatole, donc lui, il bossait dans une start-up et à côté, il a toujours été passionné de vidéos et photos, donc depuis étudiant. Et donc, il a appris sur une dizaine d'années la vidéo de façon autodidacte sur Internet, etc., en regardant des tutos. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait des voyages entre potes ou tous les deux, il disait « Ah, je vais faire un montage vidéo ». Et en fait, ça prenait tellement de temps parce qu'il faisait des vidéos de très bonne qualité que la moitié des montages ne sont jamais sortis. Il mettait plus de 6 mois et la plupart ont été abandonnés. Et donc pour nous, avec ce voyage autour du monde, Anatole, c'était évident qu'il voulait faire des vidéos. Et moi, je lui ai dit, mais t'arriveras jamais à les sortir, les vidéos. Il dit, il nous faut un objectif. Et puis en parallèle, je sais pas, je me souviens pas de quand est-ce qu'on a eu le déclic de faire une chaîne YouTube. Tu t'en souviens?
L'apparition d'Anatole.
voilà. La création de la chaîne YouTube, en fait, nous, on s'est dit, ça va être plutôt un bonus. Notre vrai projet, c'était vraiment le voyage. C'était vraiment partir. Et donc on avait des économies pour ça, pour partir pendant 2 ans environ. Et on s'est dit la chaîne YouTube ce sera vraiment un bonus. Moi c'est ma passion de faire des vidéos. Et on se dit on se donne à fond. Et on avait cette petite idée ou ce petit rêve derrière la tête que si ça se développe et si ça marche, peut-être qu'un jour on pourra en vivre et du coup pouvoir continuer le voyage plus longtemps. Donc c'était vraiment en fait un bonus, mais c'était pas du tout central dans le projet. Et voilà, au début c'était juste un rêve, on savait que c'était super difficile et que ça marche et qu'on puisse un jour en vivre, donc nous on l'a vécu comme ça juste pour un bonus.
Sur les premiers mois, vous viviez avec vos économies ou vous faisiez des petites missions sur place?
Non, on vivait sur nos économies, de toute façon on n'avait pas trop le choix parce qu'en Afrique, malheureusement les salaires locaux nous auraient pas permis de voyager. Et puis on n'a jamais cherché à travailler sur place. On a commencé le premier épisode des Mariole Trotter le premier jour des départs. Et à ce moment-là, on s'est dit, on sort une vidéo tous les lundis à 20h. Et ça, pendant 2 ans, on l'a fait. Parce que justement, on s'est dit, faut qu'on a appris en fait à publier la vidéo. On s'est dit, même si c'est imparfait, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Parce qu'autrement, c'est jamais parfait. Donc, faut savoir dire stop, c'est fini. Et ça nous a beaucoup aidé, je crois, à... surtout Anatole, à se dire... on publie.
Ça met un cadre, oui.
Voilà. Je dirais, on a commencé 2-3 mois avant le départ une formation en ligne sur le marketing digital qui nous a duré 6 mois. Et c'est là qu'on a compris, en fait, comment les blogueurs voyages pouvaient gagner de l'argent sur Internet, les youtubeurs, les sites de e-commerce, tous les métiers du web, en fait. On ne savait pas que c'était vraiment trop possible de gagner de l'argent. Enfin, on avait dû en entendre parler. Et donc là, on a compris les mécanismes, en fait, comment les gens gagnaient de l'argent sur Internet, comment créer une communauté, etc. Enfin, donc ça nous a pas mal aidés. On l'a fait au bon moment parce qu'on l'a fait avant de débuter, au moment du lancement et tout ça. Et donc, ça nous a permis de se lancer et d'avoir, je pense, quelques petites compétences qui permettent d'éviter de s'éparpiller et de se perdre et de se focus sur les choses importantes, en fait.
Très chouette. Bah, écoute, on connaît à peu près tout sur ton parcours. Maintenant, j'aimerais savoir ce que le voyage t'apporte, toi, personnellement.
Ça m'a apporté pas mal de savoir-être, je crois, et savoir-vivre. Ça m'a permis de développer ma patience, parce que j'étais assez impatiente. Et je pense qu'en plus, la société un peu dans laquelle on vit en France, quand on voit, par exemple, bah, rien que si on reprend l'exemple des réseaux sociaux, mais sur YouTube, etc., on est beaucoup dans une société de zapping, où tout va très vite tout le temps. Et je me suis rendu compte de ça, ouais, que j'avais perdu, en fait, des fois, la patience d'écouter une conversation, de lire un article, des choses comme ça. Et donc, la patience, ouais, c'est quand même assez important de prendre le temps. Prendre le temps de vivre aussi l'instant présent, pas être dans le futur ou le passé. On a aussi redécouvert, en fait, j'appelle ça, moi, du temps en cerveau disponible. Parce que quand on travaillait ou étudiait, enfin, on était toujours focus sur... Enfin, toute notre énergie, en fait, était prise pour... notre emploi, et le soir en rentrant c'était plus du divertissement dont on avait besoin, on faisait du sport, des sorties, des choses comme ça, mais pas forcément l'énergie d'approfondir des nouveaux sujets, de lire des livres compliqués. Et ça était un vrai bonheur, en fait, d'avoir le temps de lire, d'écouter des interviews ou pousser des choses comme ça sur des sujets qui nous intéressent. Donc, en fait, de se former, enfin d'avoir du temps pour nous, pour se développer nous à l'intérieur, plutôt que d'accumuler de l'argent, par exemple. Et autrement, ça nous a apporté énormément d'un point de vue aussi matériel, justement de ne pas être focus sur le matériel, mais de vivre dans un van. Enfin, c'est une expérience assez incroyable de minimalisme. Et on se rend compte aujourd'hui que ça conforte un peu nos idées, mais on n'a pas besoin de confort ou d'une grande maison. Enfin, c'est plus du tout dans nos... Enfin, ça n'a jamais été, mais ce n'est pas du tout dans nos rêves d'avoir une stabilité, un confort matériel. On n'a pas besoin de ça, en fait, pour être heureux. Et je pense qu'on peut être heureux de d'autres façons. On est heureux, en tout cas, autrement. Et puis, une connaissance de l'Afrique aussi. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable, qui nous explique aussi beaucoup de choses sur l'histoire, sur pourquoi il y a des pays pauvres et des pays riches qu'on appelle sous-développés, mais en fait, qui ne sont pas du tout sous-développés, pourquoi qui sont développés autrement. Déjà, je crois qu'on a compris que pour qu'il y ait des pays pauvres, enfin, pour qu'il y ait des pays riches, il faut des pauvres. Et si l'Afrique est aussi pauvre aujourd'hui, c'est que, d'une certaine manière, certains pays riches cultivent cette pauvreté. On ne les aide pas à se développer, contrairement à ce qu'on pourrait des fois croire. Et au contraire, on les maintient dans cette pauvreté en leur apportant des fois de l'aide, mais justement pas en les aidant à se développer, comme ils auraient envie d'ailleurs. Et l'Afrique, on pourrait apprendre énormément, en fait, de l'Afrique. C'est peut-être eux-mêmes qui aurait ou qui pourrait être le futur, en fait, d'un mode de vie soutenable. Mais ils n'ont pas forcément confiance en eux et conscience de ça. Et je pense que tout leur mode de vie actuel, c'est une énorme richesse qu'ils ont, mais qu'ils en ont, ils n'en ont pas conscience. Et ils suivent le schéma qu'ont des pays occidentaux riches. Et du coup, ils risquent de suivre nos mêmes erreurs, malheureusement.
Et qu'est-ce qui te marque le plus dans la façon de vivre de ces Africains ?
Alors déjà, l'Afrique, c'est 54 pays, c'est un continent qui est immense et très, très diversifié. Bon, nous, on n'en a fait qu'une petite partie, on a visité plus de 20 pays, mais bon, ça reste une petite partie quand même. Ce qui marque, c'est, je crois, ils vivent quand même vachement plus à l'instant T et aussi en grande solidarité. Et du coup, par exemple, il y a une anecdote qui explique quand même pas mal de choses, je trouve, c'est... On a un ami qui construisait une maison, il nous raconte ça. Il y avait une période en fait où c'était les fondations, donc il fallait que ça sèche, il fallait que ça aille très vite les travaux. Et donc il propose à ses employés, enfin à la société qui l'emploie, je vous paye double si on bosse bien aujourd'hui. À la fin de la journée, il leur verse un salaire double. Le lendemain matin, personne ne se pointe. Jamais aucun Français n'aurait fait ça. Il se dit, qu'est-ce qui se passe ? Tu leur as donné de double en salaire, ils n'ont pas besoin de venir travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, ils profitent. Et c'est ça, je crois. C'est qu'ils ils vont pas forcément chercher à accumuler beaucoup d'argent, mais plutôt à vivre l'instant présent. Et c'est vrai que quand il y a des urgences, des enterrements, des choses comme ça, ils vont prioriser ça plutôt que l'emploi, par exemple. Ce qui peut être des choses un peu inconcevables pour nous, mais en fait, qui, je trouve, sont plutôt une qualité.
Et en quoi ça a changé ta vision de la vie ? Parce que j'imagine que tu perçois plus du tout les choses de la même façon que quand tu sortais de ton Master 2 et que tu cherchais la stabilité.
Nos projets pour le futur sont complètement différents. Déjà, on a pris énormément conscience. Enfin, maintenant, l'impact écologique de notre quotidien, c'est quelque chose de très, très important pour nous. Et on voit notre futur autour de ça. c'est pour ça aussi qu'on se projette de rentrer en France, parce qu'on aimerait arrêter de prendre l'avion complètement. Là, on n'était pas rentré depuis 2 ans, donc c'est déjà 2 fois moins que de rentrer tous les ans. On a réussi à faire tout le voyage par la route sans prendre l'avion. Et à terme, on aimerait rentrer en France pour justement éviter de devoir rentrer. Parce que quand tu vis à l'étranger, c'est compliqué de ne pas rentrer, de voir sa famille. Donc c'est pour ça qu'on aimerait rentrer et on aimerait vivre dans un écolieu. Donc en mutualisant beaucoup de choses, vivant avec des personnes avec des valeurs communes et limiter justement les déplacements. Et au niveau professionnel aussi, c'est clair qu'on a beaucoup évolué. Maintenant, on a la chance du coup de vivre de notre chaîne YouTube et donc d'être entrepreneur. Et c'est vrai que cette liberté nous est très chère. Et aussi cette temps disponible, ce temps qu'on peut organiser comme on le veut, d'être productif si on veut et de travailler du coup moins plutôt que de rester et de travailler surtout quand on en a, quand on a de l'énergie et de l'inspiration, quand on est efficace quoi.
Vous apprenez à vous écouter en fait.
C'est ça.
À suivre votre propre rythme et pas des horaires bien fixes.
Ça, c'est clair. Mmh. D'ailleurs, je peux rebondir peut-être sur ce que ça nous a apporté aussi, mais c'est vrai que d'un point de vue santé et tout ça, on n'a pas envie d'être malade quand on arrive en Afrique, même si on a une assurance, etc. On a la chance d'avoir une assurance. En France, en fait, je trouve qu'on ne nous apprend pas trop à prévenir en fait, les maladies et tout ça. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on arrive à un stade où on est un peu toujours soigné à l'hôpital. Enfin, on n'a pas forcément peur de mourir d'une maladie. Enfin, quoique maintenant, il y a pas mal de cancers, des choses comme ça. Mais au quotidien, on va dire. Et en Afrique, nous, on a quand même vachement fait attention à ça aussi, à s'écouter, à toujours dormir comme il nous faut. Enfin, on ne met pas de réveil parce que je pense que c'est la base d'une bonne santé aussi. À manger sainement, localement. Et ouais, à se prendre en main, en fait. Faire du yoga, des choses comme ça. Et à prévenir, quoi.
Vous avez été invité au mariage Tribus Samburu dans le désert du Kenya. Qu'est-ce qui te marque chez les Africains? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux finalement?
C'est pas facile comme question parce que du coup c'est un peu deux choses différentes, parce que la tribu Samburu, c'est une tribu au fin fond du Kenya. Donc c'est pas du tout le mode de vie qui est répandu en Afrique en fait.
Et de ce peuple-là en particulier, qu'est-ce que tu as appris?
En fait, ce peuple-là, on les a pas vraiment rencontrés parce que là c'était un mariage traditionnel Samburu. Ouais. Mais ce qui était très très drôle, c'est que quand on s'est retrouvés à la soirée, donc ils étaient tous en tenue Samburu, mais c'est plus du tout des Samburu qui vivent de façon traditionnelle. Il y en a plein, c'était des docteurs, des médecins qui vivaient à la capitale. Et en fait, on avait un peu les mêmes modes de vie. Au final, on avait beaucoup de points communs. On s'est rendu compte de ça, qu'on avait beaucoup de points communs. Et donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple du coup.
Comme lequel?
Tout était très simple quand on discutait. Autant avec certains peuples, c'était pas forcément le cas. Pour le coup, on a vraiment rencontré des Maasai ou des Himba qui vivaient de façon très traditionnelle. Et là, du coup, on n'avait pas... Enfin, on a à la fois beaucoup de choses en commun parce qu'on reste des hommes, mais sur les modes de vie, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes. Que ces personnes-là, elles avaient l'apparence de vivre en tribu ou pas, et en fait, pas du tout. Et il y avait une égalité homme-femme quand même assez marquée. Ils avaient accès à tous les moyens de communication comme nous.
Vous échangez en anglais avec eux?
Oui, justement, ils parlaient anglais parce que du coup, ils avaient fait des études.
Qu'est-ce que tu n'as pas appris dans tes cahiers d'école et que tu aurais aimé savoir plus tôt?
J'ai appris que j'étais une multipotentielle, plutôt en français. J'étais tombée sur une conférence, et je crois qu'elle a fait beaucoup de bruit, cette conférence, parce que je réentends ce terme régulièrement maintenant. Alors, c'est peut-être pas de cette conférence, mais en tout cas, ce terme-là, c'est popularisé, je crois. Et à l'école, on t'apprend à trouver un métier, te spécialiser à la fac ou dans une école, dans quelque chose. Et j'ai eu la chance, au final, d'arriver sur un master à la fin, de mon parcours, qui du coup ne m'a pas du tout spécialisée parce qu'on m'a préparé à prendre un poste de direction. Donc en gros, c'est réussir à parler avec beaucoup de techniciens, mais de toi, pas être technicienne. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, j'étais faite pour ça, je crois, parce que je suis multipotentielle. Donc c'est pour ça que j'avais des bonnes notes un peu partout, mais des bonnes notes nulle part en même temps. J'avais la moyenne partout. J'avais les mêmes notes dans toutes les matières en fait. Et dans la vie, je crois que je suis comme ça encore, je m'intéresse à pas mal de sujets, j'arrive à capter des nouveaux sujets très rapidement, ou aussi à parler sur beaucoup de domaines particuliers, mais par contre, je ne suis pas forcément passionnée dans des sujets en particulier, et donc je pensais que c'était un défaut, et en fait, je ne pense pas, maintenant je sais que ça peut être une qualité.
Donc tu aurais aimé qu'on te dise que tu avais le droit de ne pas chercher une spécialisation?
Ouais, de ne pas avoir de passion en particulier, et... Parce que c'est vrai que, bah, après, je crois que ça a un petit peu changé le parcours scolaire, mais c'est vrai qu'au lycée, on nous disait qu'il fallait faire, du coup, c'est littéraire, économie ou scientifique. Et moi, j'avais envie de faire un peu de tout. Et c'est pour ça que j'ai peut-être un peu aussi galéré et pas trop aimé scientifique, parce que c'était trop poussé pour moi. Mm-hmm. Mais j'ai réussi à l'avoir parce que je m'intéresse quand même un peu à tout.
Il y a une phrase qui te plaît particulièrement, je crois. « Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais » de Oscar Wilde. En quoi cette phrase, elle te plaît?
Oui, ça, c'est quelque chose. J'ai toujours un peu vécu ma vie comme ça, je crois, à me dire si je devais mourir aujourd'hui, est-ce que je regretterais les choix que j'ai faits? Alors forcément, il y a toujours des petites choses, mais j'ai toujours un petit peu vécu comme ça, à me dire faut que je fasse ce que j'ai envie, enfin que je suive mes rêves, sans regret surtout. Et c'est vrai que les folies, je crois qu'on les regrette jamais, même si on échoue. C'est pas très grave. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a, à un moment, on a entendu ça, enfin, quand on préparait notre projet, c'est de se projeter sur le pire qui puisse arriver quand on a une prise quand on a une prise de décision à prendre ou un projet dans lequel on se lance qui nous fait peur, de se dire, ok, si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Et quand tu commences à visualiser étape par étape les échecs et où ça te mène, tu te rends compte que finalement, c'est pas si dramatique que ça, et que même si t'arrives au pire du pire, tu arriveras à rebondir. Enfin, ça vaut le coup d'essayer. Que t'y arrives ou pas, dans tous les cas, t'en ressors beaucoup plus fort.
Est-ce que t'as eu un gros échec qui t'a marqué?
Non, finalement, je crois que j'ai eu la chance de pas avoir trop d'échecs. C'est vrai. J'en ai pas forcément qui me marquent.
Plus peut-être des choses qui se sont pas passées comme tu l'aurais prévu, mais qui finalement t'ont appris quelques petites leçons.
Alors ça, oui, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des plus grandes leçons de notre voyage, oui, c'est quand même la capacité d'adaptation qu'on a su développer. Et maintenant, c'est notre mode de vie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne vit pas les choses comme des échecs. Le plus gros exemple qui, je pense, a marqué beaucoup de gens ces derniers temps, c'est quand le Covid est arrivé. Nous, ça faisait 1 an et demi qu'on était en Afrique. À ce moment-là, on devait rentrer en Afrique du Sud, on était à la frontière. Et en fait, nous, quand le Covid est arrivé, c'était la panique partout. Et nous, ça ne nous a pas trop perturbés. Il fallait juste qu'on prenne la décision de soit rentrer et de se faire rapatrier comme quasiment tout le monde, ou de rester. Et on a choisi de rester parce qu'on connaissait le continent africain. La plupart des pays qu'on avait visités, les gens étaient tellement calmes et pas du tout sanguins, contrairement à ce qu'on pourrait des fois croire. Et on a eu confiance en eux et en nous. Et du coup, on est resté. Du coup, on n'a pas vécu ça comme un échec, alors que ça a complètement changé nos projets, parce qu'on devait aller à ce moment-là sur le continent asiatique, mettre notre véhicule sur un bateau et rejoindre le continent asiatique 2 mois plus tard. Ça ne s'est pas fait. Mais c'est vrai que du coup, ce n'est pas un échec, parce que ça nous a permis de faire d'autres choses. Mmh. De rester 6 mois, par exemple, au Mozambique, ce qui est une chance, parce que quand tu as un visa touristique, tu peux rester qu'un mois en général dans les pays. Ça dépend, mais en Afrique, c'est souvent 1 mois. Donc là encore aujourd'hui, il y a plein de choses qui se... Les frontières, elles s'ouvrent, elles se ferment, mais on vit jamais ça comme des échecs, on prend ça comme ça vient, et voilà. Mmh.
Le bonheur, c'est quoi pour toi?
Je pense que le bonheur, c'est de se sentir là où on doit être, à l'instant où on l'est, que ça repose sur la santé, et encore, peut-être pas, je sais pas d'ailleurs. Nous, on a la chance d'être en bonne santé, mais d'ailleurs, je pense que c'est pas forcément une source de bonheur, parce qu'au contraire, peut-être qu'on vit mieux la vie, on apprécie peut-être mieux la vie quand on a des problèmes. Voilà, l'amour, d'être bien entouré, pas forcément en couple, mais l'amour, de donner et de recevoir. Et puis, de suivre ses rêves. Et la liberté. La liberté.
Ah oui, la liberté, ça compte beaucoup pour vous deux.
Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on cultive beaucoup, de pas vendre notre temps aussi et nos valeurs, et de rester libre à tout niveau. Et on a la chance aujourd'hui d'être assez libre. On a la chance d'être français, d'avoir un passeport français. Il ne faut pas quand même pas l'oublier. Et donc d'avoir cette liberté de mouvement et d'entreprendre ce voyage. Ce qui n'est quand même pas donné à beaucoup de gens. Et voilà.
Bon, mais écoute, on arrive à la fameuse phrase, la fameuse question dont tu m'as parlé avant qu'on commence. Elle m'a dit, je crois qu'il y a une question que tu poses tout le temps et tout. C'est quoi déjà, mince? Du coup, c'est quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui, Marion?
Je crois que le conseil, du coup, c'est ce que moi, j'ai mis du temps à comprendre, peut-être, en suivant mes études. C'est d'investir en soi aussi et de ne pas avoir peur de l'avenir. Et je pense que si on fait notre maximum de se former tout le temps, toute sa vie... En fait, les études, ce n'est pas une fin en soi. Et on l'oublie peut-être un petit peu. Des fois, on se dit « Ah, faut que je fasse des études et après, ce sera fini. Et j'aurai mon emploi et puis je suivrai ma carrière. » Et je crois qu'en fait, il faut toujours se former parce qu'en plus, là, on arrivera dans des périodes où on aura des multitudes de métiers. La société va évoluer, on ne sait pas encore dans quel sens, mais les changements climatiques vont quand même impacter notre société, je pense, et j'espère dans le bon sens. Et donc, il va falloir s'adapter. Et tout ce que vous aurez appris, ce sera en vous, et ça, on ne pourra jamais vous le reprendre, contrairement peut-être à l'argent ou à des choses matérielles. Donc,
Très chouette, eh bien, merci beaucoup. Est-ce que, on va faire... donner un petit mot de la fin à Anatole, si tu as quelque chose à te dire. Ouais, un petit conseil, toi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes?
Ouais, j'avais pas trop préparé cette question.
Merci Marion.
Un conseil pour les jeunes. N'ayez pas peur pour l'avenir. Je pense que c'est assez difficile et assez anxiogène avec tout ce qu'on peut voir. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de... comme Marion l'a dit, en fait, de se former, d'apprendre et surtout, en fait, de faire des choses. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre, à me renseigner sur l'économie, sur le changement climatique, des sujets très anxiogènes. Et le plus important, en fait, c'est vraiment de faire des choses, et c'est en faisant que qu'on est fier de soi, qu'on peut avancer. Et voilà, faire des choses, entreprendre, faire des projets. Et voilà, c'est ça qui nous fait vivre et qui nous rend heureux. Comme Victoria.
Adorable. Ben, merci à tous les deux. Génial.
Ben, merci à toi.
Merci.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Oeil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.